privé, priorité santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Bank pour votre compte bancaire.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler d'une maladie infectieuse dont le retentissement est largement sous-estimé, surtout dans l'hémisphère nord. L'une des maladies les plus anciennes dans l'histoire de l'humanité, la tuberculose, qui est loin, très loin d'appartenir au passé. En 2023, jamais autant de diagnostics de cette infection bactérienne n'avaient été recensés par l'OMS. 8 200 000 cas confirmés. Une maladie qui se prévient et qui se soigne, mais qui pour cette même année 2023 a provoqué 1 250 000 décès. Les répercussions les plus connues de la tuberculose concernent la santé respiratoire, mais il existe de multiples atteintes de cette maladie transmise par le bacille de Koch, en dehors des poumons, la zone urinaire, les méninges, le foie, les os. Et dans l'émission, nous allons parler de la transmission, de la prise en charge, également des facteurs et des maladies associées qui peuvent augmenter les risques liés à la tuberculose. Comme la question clé aussi de la tuberculose multirésistante, qui constitue une véritable menace pour la sécurité sanitaire aux yeux de l'Organisation mondiale de la santé. 24 mars, journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Vos questions, vos témoignages sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 et avec nous dans les studios de RFI, docteur Marie Jaspard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue au service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine APHP à Paris, également chercheuse pour l'INSERM en collaboration avec l'ONG Alima. Nous donnerons également la parole au docteur Faudet Danfaka, qui est le coordonnateur national du programme national de lutte contre la tuberculose pour le Sénégal. Et puis on parlera aussi de l'accompagnement des aidants pour les personnes concernées par des maladies psychiatriques ou des troubles du neurodéveloppement avec le lancement d'un nouveau programme de psycho-éducation numérique. Ça s'appelle Léo 2.0, on va en parler en fin d'émission avec le docteur Romain Ray, qui est psychiatre responsable du centre expert schizophrénie de la Fondation Fondamentale à l'hôpital Le Vinatier. C'est à Bron, à côté de Lyon.
Priorité santé sur RFI.
La tuberculose, une maladie ancienne, on la retrouve même dans certains chefs-d'œuvre de la littérature, maladie qui demeure un véritable problème de santé publique dans de nombreuses régions du monde. Et aujourd'hui, docteur Marie Jaspard, est-ce qu'on peut établir une forme de cartographie de cette infection bactérienne si on regarde le globe, si on regarde la planète, où est-ce que la tuberculose est la plus présente ?
Alors, généralement, effectivement, la tuberculose est plus présente sur le continent africain, mais pas que. En Asie du Sud-Est, en Inde, au Pakistan, en Iran, enfin, dans aussi l'est de notre globe, si on se cale sur la France, évidemment. Donc, il y en a de plus en plus dans le monde. Il faut faire quand même un petit peu attention, parce qu'il y en a beaucoup en Europe, beaucoup dans le nord aussi, dans l'hémisphère nord aussi. Et donc là, clairement, on est dans un processus où il y a de plus en plus de tuberculose dans le monde. On ne peut plus dire que c'est une maladie uniquement du sud, c'est une maladie du sud et du nord. Il y a de plus en plus de cas. À ma consultation, j'en vois beaucoup. Dans mon service, j'en vois beaucoup. Donc, voilà, on peut
consultation
pas...
Consultation au cœur de Paris. Ça veut dire que ça peut Exactement. Concerner tout à chacun. Et qu'est-ce qui peut expliquer, justement, à la fois cette hausse dans des zones où il y a beaucoup de tuberculose et cette résurgence dans des zones où il y en avait moins.
Donc, mais il y a quand même une transmission liée au mouvement de population. Donc, clairement, quand on va dans le sud, quand on remonte dans le nord, ou quand on fait les mouvements dans un sens ou dans l'autre, on emmène avec ça la maladie. C'est une maladie qui peut être latente pendant des années. Et donc, c'est un peu l'enjeu. C'est-à-dire qu'on peut contracter la maladie 10 ans avant et la déclarer, en termes de symptômes, 10 ans plus tard. Et ça, vraiment, c'est très compliqué parce que les mouvements de population sont tels dans le monde entier qu'en effet, on transporte avec nous ce genre de maladie des années plus tard.
Pour bien comprendre, la tuberculose, il y a une très très importante proportion de personnes, et heureusement, qui sont porteurs, qui n'auront jamais la maladie, ils ne développeront jamais les symptômes.
Tout à fait, c'est tout à fait ça, mais malheureusement, ces gens-là ne savent pas qu'ils sont porteurs, donc, et on ne peut pas diagnostiquer ça en avance. Donc le jour où ils déclarent la maladie, eh ben, ce jour-là, il faut le diagnostiquer et le traiter.
Alors justement, il y a des facteurs précis, docteur Marie Jaspard, qui vont, entre guillemets, aider au déclenchement de la tuberculose maladie
C'est difficile à dire. Donc, il y a le VIH. Les gens qui ont le VIH ont une immunité qui descend de manière importante. Et là, ils peuvent déclencher ou redéclencher leur tuberculose. Et après, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien pourquoi certains font des maladies, pourquoi certains n'en font pas.
Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est fragile qu'on développera forcément une tuberculose.
Ça dépend comment on définit la fragilité. C'est ça qui est un peu compliqué, en fait. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que tout d'un coup, on est fatigué pendant un hiver qu'on sort une tuberculose. Il y a plus de facteurs et c'est difficile à dire pour l'instant.
Sinon, on pourrait mieux cibler. Ce serait beaucoup plus pratique pour les médecins. On va s'intéresser aux signes caractéristiques. En tout cas, est-ce qu'on peut déterminer le ou les symptômes qui doivent au moins alerter, mettre la puce à l'oreille ?
Moi, les patients que je vois en hospitalisation, en consultation, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont laissé traîner deux principaux symptômes qui sont les sueurs nocturnes, des sueurs profuses. Hein. C'est pas juste on a un petit peu chaud la nuit, c'est des sueurs profuses. Il faut changer de t-shirt, il faut changer de drap dans son lit. Ça, c'est vraiment un signe extrêmement pathognomonique de la tuberculose, extrêmement clair de la tuberculose. Ça, c'est le numéro 1. Et le numéro 2, c'est la perte de poids. Si quelqu'un perd du poids alors qu'il a une alimentation relativement correcte, avec des pertes de poids extrêmement importantes, hein, on parle de 5, 7, 10 kilos en quelques mois, ça, c'est vraiment très clair. Il faut vraiment très vite consulter. Et ça, c'est pour la tuberculose en sens large. Et après, en fonction des organes touchés, on a différents symptômes.
Alors justement, dépistage, sur quoi ça repose ce diagnostic ? C'est le sens de la question que pose sur WhatsApp Alain en RDC. Il demande quel est l'examen qui permet de diagnostiquer la tuberculose sous toutes ses formes.
Ah bah alors ça, ce serait super, ça existait. Ouais. Malheureusement, non, c'est un diagnostic compliqué. C'est pour ça qu'il y a autant de cas dans le monde et c'est pour ça que ça évolue malheureusement dans le mauvais sens. Pour la tuberculose pulmonaire, donc là, ça veut dire qu'on a des bacilles, enfin des bactéries dans les poumons. Là, c'est les crachats. C'est-à-dire qu'on va cracher dans un petit pot sur plusieurs jours d'affilée et un biologiste va regarder dans les petits pots, voir s'il y a des bactéries qui poussent. S'il y a des bactéries, on a diagnostic de manière certaine. Le problème, c'est que s'il n'y en a pas, il se peut qu'on n'ait pas bien craché ou qu'on ait craché juste de la salive. Il faut aller cracher vraiment ce qu'il y a dans le fond des poumons. Ou bien que le diagnostic soit difficile, ou bien que le biologiste ait eu du mal à identifier parce qu'il n'a pas l'infrastructure nécessaire pour diagnostiquer ces bactéries au niveau de son microscope. Donc ça, c'est pour la tuberculose pulmonaire, c'est la plus facile. Les autres, c'est beaucoup plus compliqué.
Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur ce point. C'est vrai que pour le grand public, la tuberculose égale poumon. Et pourtant, c'est pas totalement, c'est vrai dans une majorité des cas, mais c'est pas totalement la réalité. S'il fallait faire un petit exposé assez simple à quelqu'un qui croit que eh bien, la tuberculose, c'est exclusivement une maladie respiratoire, qu'est-ce que vous diriez ?
Alors malheureusement, non. Malheureusement, je dis ça parce que ça peut être des maladies du coup plus graves ailleurs que dans les poumons et puis plus difficiles à diagnostiquer, comme je viens de le dire. Donc ça rentre par les poumons, hein, clairement, la bactérie, le bacille de corps rentre par les poumons et ensuite peut diffuser. Donc ou bien il reste dans les poumons, on a une tuberculose pulmonaire et là c'est plutôt relativement facile, mais c'est la forme contagieuse. Ou bien ça circule dans le sang, et là, ça peut se mettre partout, donc notamment dans les méninges, effectivement, ou neuroméningés, au niveau du cerveau. Ça peut se mettre dans les urines aussi. Donc là, effectivement, on excrète de la bactérie dans les urines, donc on peut diagnostiquer sur un test des urines. Ça peut se mettre aussi dans les os, tuberculose osseuse. Anciennement, ça s'appelait le mal de Pott, c'est-à-dire qu'au niveau de la colonne vertébrale, ça peut casser la colonne vertébrale et la plier avec des gens qui sont complètement bossus, donc dans une évolution extrêmement chronique.
Est-ce qu'il y aura toujours une primo-infection, des premiers symptômes localisés sur les poumons ou pas forcément
toujours,
Ça veut dire qu'elle peut être très trompeuse, cette maladie.
Complètement. On peut avoir mal au dos. Et c'est pour ça que vraiment les symptômes de sueur nocturne et de perte de poids, ensuite il faut chercher. Et après les poumons, il peut y avoir à peu près tout. Il peut y avoir dans le foie, il peut y avoir partout. Mais c'est vrai que les os, le cerveau, les urines et les poumons, c'est les principales formes. Et j'ajoute, si vous me permettez, que dans les poumons, il peut aussi y avoir des formes ce qu'on appelle miliaire, c'est-à-dire avec une diffusion dans le sang et pas dans les bronches. Et dans ce cas précis-là, on n'aura rien au niveau du crachat. Mmh. Et pourtant, le poumon est atteint. Donc, c'est une maladie dont le diagnostic est difficile. C'est bien pour ça que ça évolue avec le temps.
Il y a un adjectif qui me vient à l'esprit, c'est fourbe.
Oui,
c'est
exactement.
Une maladie fourbe.
Tout à fait.
Alors, deuxième question que pose toujours Alain, quel est le vaccin disponible pour la maladie ?
Alors, c'est aussi un des problèmes, merci Alain pour cette question, c'est qu'il y a un vaccin qui s'appelle le BCG, qui est un vaccin qui protège les enfants des formes graves, principalement neuroméningées. Donc, qui est quand même une partie de la tuberculose, mais qui ne fait pas l'entièreté. Et dès que l'enfant est devenu plus grand, il est plus protégé. Donc, vous et moi, vaccinés avec le BCG, on n'est pas protégé contre la tuberculose aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de vaccin.
Les gens se disent, j'ai eu le BCG,
non.
Je suis protégé.
Pas du tout.
Alors, diagnostic, traitement à base d'antibiotiques. Est-ce qu'on prend toujours plusieurs médicaments quand on a une tuberculose ?
Oui, systématiquement, 4 médicaments différents au début. Et au bout de 2 mois, on rétrograde en général à 2 médicaments, ce qui fait beaucoup, beaucoup de comprimés. Et c'est aussi un des éléments qui rend difficile le traitement de la tuberculose. C'est très long, ça fait 6 mois de traitement au total. Donc c'est extrêmement long avec beaucoup de comprimés à prendre.
Quand je vous écoute, on a bien compris que c'est une vieille maladie, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de recherche pour faciliter le diagnostic, la vaccination, le traitement. Ça veut dire les 3 piliers de la lutte contre la maladie.
Alors, c'est ça. Et alors, j'ajouterais là-dessus que le traitement est particulièrement compliqué pour les enfants, parce que les enfants, c'est des formulations avec des gros comprimés. Donc, autant vous dire qu'un enfant de 1 an prend pas des gros comprimés. Et il n'y a pas de sirop ou très peu.
Ça veut dire quoi? On écrase et on met dans la purée, dans la bouillie.
Exactement.
Ouais.
Bon. Exactement.
Encore du travail pour les mamans. Ouais. Et les médecins insistent sur le fait qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout de ce traitement.
Ouais, tout à fait. Sinon, ça fait des rechutes. Et c'est quasiment systématique. Si on ne prend pas l'entièreté des 6 mois de traitement, quasiment systématiquement, on rechute avec une nouvelle tuberculose qu'il faut retraiter. Et dans ces cas précis-là, il y a aussi un risque de sélection de tuberculose résistante si on ne prend pas le traitement toute la durée et de manière correcte. Donc en plus, là, quand on rechute avec une forme résistante, donc c'est encore plus long parce que là, c'est plutôt 1 an de traitement.
Ça veut dire attention à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont concernés, c'est comme d'habitude, c'est pas parce que ça s'améliore que c'est guéri.
Exactement, tout à fait, c'est 6 mois. Et la bactérie, donc le bacille de corps, effectivement, a une croissance extrêmement lente. Donc si on ne prend pas la durée totale, il restera des bactéries dans le corps. Et en effet, bactéries plus antibiotiques face à face, ça fait des résistances.
Donc je vais inventer un nouveau slogan, soyez plus fort que le fourbe, allez jusqu'au bout de votre traitement.
Exactement, c'est
alors,
ça.
On va poursuivre notre échange avec des témoignages, des questions d'auditeurs, coup de projecteur sur le programme de lutte contre la tuberculose au Sénégal, juste après Anna Grateful dans Priorité Santé sur RFI. Priorité Santé sur RFI, on parle de la lutte contre la tuberculose, prévention, dépistage, prise en charge, toujours avec le docteur Marie Jaspard, infectiologue au service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Tout à l'heure, vous avez cité brièvement cette tuberculose multirésistante qui provoque là pour le coup pas mal de sueur froide pour les autorités sanitaires de la planète, docteur Jaspard. Est-ce que ça signifie que dans ce cas-là, quand on se rend compte qu'il y a une résistance, il va falloir prescrire d'autres médicaments, d'autres antibiotiques?
Tout à fait. On n'a pas la quadrithérapie, donc les 4 médicaments habituels. On en garde certains s'ils sont sensibles et on en rajoute beaucoup d'autres. Et quand je dis beaucoup, ça peut aller jusqu'à 6 ou 7 médicaments pour la durée du traitement qui est plutôt de 1 an que de 6 mois.
Qu'est-ce qui détermine la résistance? Est-ce que c'est qu'on a un bacille, une petite bactérie particulièrement méchante, différente? Ou est-ce que parce que le patient, même si on n'a pas le culpabilisé, n'a pas bien réagi ou en tout cas n'a pas pris le traitement jusqu'au bout?
Ça peut être les deux cas, c'est-à-dire que la personne peut être contaminée d'emblée par une bactérie multirésistante, ça c'est pareil pour toutes les bactéries, hein, c'est pas que pour la tuberculose, ou bien à l'inverse, avoir eu une tuberculose sur laquelle il a été traité mais pas correctement, et du coup avoir rechuté en ayant créé des résistances avec sa bactérie.
Alors on sait qu'il y a toute une série de co-infections, notamment le VIH-SIDA. Est-ce que si le patient ou la patiente a en même temps est porteur du VIH, docteur Jaspard, est-ce qu'il va y avoir une adaptation dans la prise en charge? Est-ce que le traitement va être un petit peu différent?
Oui, pour éviter les interactions entre les deux types de médicaments, en effet, la tuberculose et les traitements du VIH peuvent interagir négativement ensemble et donc il faut adapter. Mais c'est assez, finalement, c'est anecdotique. Enfin, c'est vrai, pour les patients, ça ne change pas complètement radicalement la face du monde.
De toute façon, les médecins qui s'occupent d'eux connaissent bien les deux infections en même temps. Oui. Une question tout de suite, on part pour le Tchad.
RFI N'Djamena, 100.2 FM.
En ligne avec nous, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, bonjour.
Oui, bonjour Caroline Paré.
Alors, Jean-Baptiste, la tuberculose, elle a frappé votre famille, votre sœur, vous-même et votre maman, elle, qui a succombé à l'infection. On vous présente nos condoléances pour cette perte. Aujourd'hui, vous, vous vous sentez comment, Jean-Baptiste?
Oui, je me sens en parfaite santé. Mais au fait, je ne sais pas si j'ai toujours des séquelles ou quoi, je ne sais pas, mais depuis que je suis guéri de cette maladie, j'ai toujours les symptômes, l'autre.
Ouais. On va voir avec vous, si vous voulez bien, avant que vous posiez directement vos questions, Jean-Baptiste. Déjà, comment est-ce que vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème de tuberculose à la maison? Combien de personnes ont été dépistées?
Bah, mais écoutez, d'abord, c'était pour ma mère qui était tombée malade.
Ouais.
Quand on l'y avait amené à l'hôpital, les tests ont prouvé qu'il a de la tuberculose.
Oui.
Malheureusement pour elle, c'était une tuberculose avancée.
Mmh.
Donc après qu'elle est soumise à un traitement, nous autres, on a aussi décidé d'aller se faire dépister pour savoir est-ce qu'on ne développe pas cette maladie.
Mmh.
Et après le diagnostic, moi personnellement, j'ai contracté la maladie.
Est-ce que vous aviez des symptômes? Est-ce que vous aviez une toux? Ou comme le décrivait tout à l'heure notre invité, docteur Jaspard, vous aviez la nuit beaucoup de transpiration, des suées?
Bah, mais après avoir consulté beaucoup de choses sur Internet, je me suis rendu compte que j'ai développé le symptôme depuis 2021.
Ah oui, donc ça faisait déjà un certain temps, hein?
Oui, j'avais des coups répétitifs, la perte de poids et puis ouais. Le manque d'appétit, des trucs. Mmh.
Mais vous n'étiez pas informé sur la tuberculose? Vous n'aviez pas autour de vous des gens qui l'avaient eu? Ça aurait pu vous mettre un petit peu, vous alerter sur cette situation?
Écoutez, entre moi, mon cas est compliqué, quoi, parce que j'avais vu 3 contacts de gens qui ont la maladie de tuberculose.
Ouais.
Mon grand frère, de même père et mère différentes, avait développé la maladie, mais il n'a pas suivi bien le traitement, il a abandonné. Mm. Après, j'avais eu comme cousin qui avait contracté la maladie et lui aussi n'a pas bien suivi le traitement.
Mm.
Et le troisième cas, c'était ma maman. Mm. Ma maman, que je ne vis pas avec elle depuis 2014, mais après 2020, il y avait eu des contacts. Mmh. Avec elle, des trucs. Donc, je ne sais pas exactement avec qui j'ai pris la maladie.
Mmh. Bon. Aujourd'hui, vous avez suivi le traitement. Vous dites que vous avez été déclaré guéri. Et est-ce que vous avez encore certaines séquelles?
Oui, c'est depuis le 23 novembre 2023 que j'avais commencé avec le traitement. Normalement, je devrais suivre un traitement de 6 mois.
Mmh.
Mais moi, j'ai progressé jusqu'à 7 ou 8 mois. Et on m'a dit que c'est un gaspillage.
C'est parce que vous aviez tellement peur de continuer avec la maladie que vous êtes allé encore plus loin que l'ordonnance.
On m'avait parlé de la tuberculose persistante.
D'accord.
Quoi,
D'accord.
Donc, des trucs, j'ai eu peur. Donc, je veux être complètement guéri. J'ai prolongé mon traitement.
Ouais.
Et puis après, bon, je suis reparti voir le médecin.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas chez vous du côté de la santé? Est-ce que vous avez encore des signes?
Après avoir retourné voir mon médecin, il m'avait dit que je suis guéri après les tests. Mais quand je fais du sport, parce que je suis une sportive, et à chaque fois, c'est depuis longtemps que je constate ça, mais je ne sais pas si c'est dû à la tuberculose.
C'est quoi? Vous êtes essoufflé, Jean-Baptiste, c'est ça?
À chaque fois que je prolonge le sport, je suis essoufflé. Je ne sais pas, est-ce que si mes deux poumons sont atteints, des trucs, je ne sais pas.
Et vous êtes jeune, hein, vous avez 29 ans, vous n'êtes pas en surpoids?
Donc, j'ai pas de surpoids.
Vous n'avez pas de surpoids. Docteur Marie Jaspard, question importante que pose Jean-Baptiste sur la détérioration de son souffle, sa capacité respiratoire altérée, alors que la tuberculose est guérie. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ?
Ben oui, mais malheureusement, effectivement, si la tuberculose évolue depuis longtemps dans les poumons, ça peut détruire une partie de la fonction pulmonaire. Et ça, il peut y avoir des techniques de récupération, de la kinésithérapie respiratoire. Et puis avec le temps, ça peut récupérer. Il faut y aller étape par étape, doucement. Mais ce n'est pas impossible d'avoir effectivement des séquelles de type respiratoire, surtout si la forme était très grave, ce que je ne peux pas savoir pour ce monsieur. Mais effectivement, sur le scanner ou sur le radio, on peut voir si la destruction pulmonaire est importante ou pas.
Mais ce qu'on comprend bien, c'est séquelles, mais ça ne veut pas dire que la maladie est toujours là. Ce sont les traces après la guérison, certainement.
Exactement. Alors, je pense que Jean-Baptiste est dans ce cas-là précis-là. Le problème, c'est que Jean-Baptiste a pris beaucoup de traitements. Il a été très, très, très observant et c'est très bien. Il a même prolongé sa prise en charge, ce qui est une bonne chose. Le problème, c'est qu'il y a aussi une balance à essayer de chercher une rechute. C'est toujours la difficulté dans ces cas-là.
Il faut un suivi,
il faut consulter s'il y a des symptômes qui persistent et surtout si le retour des sueurs nocturnes et de la perte de poids devait se faire connaître. Et bien là, il faut effectivement reconsulter rapidement. Donc il y a quand même un petit risque de rechute. Je ne pense pas que ce soit son cas et je ne l'ai pas vu cliniquement, mais c'est possible aussi d'avoir des séquelles. Mais il y a vraiment cette balance entre les deux éléments possibles qu'il faut surveiller.
Donc l'essoufflement s'explique, mais il faut rester vigilant. Exactement. Sans paniquer pour le reste.
Exactement.
Un grand merci Jean-Baptiste pour votre appel. On a une question d'Ibrahim au Niger. Complications liées à la tuberculose, donc c'est ça, notamment une altération de la capacité respiratoire.
Oui, c'est possible. Vraiment sur les formes respiratoires très importantes. Hein. Donc la plupart des tuberculoses pulmonaires récupèrent complètement et la fonction respiratoire s'améliore très vite, très bien. Alors très vite, je dis une bêtise, très bien. Très vite, non. Clairement, ça peut prendre du temps et il faut quand même se laisser le temps. Ça peut durer un an de récupérer sa fonction respiratoire normale. Donc voilà, il y a la possibilité d'avoir ces séquelles-là qui est quand même relativement rare, mais c'est long la récupération d'une tuberculose. C'est très
et rester vigilant sur le risque de récidive.
Exactement.
Au Congo, on a Chérif qui explique « Après avoir bien suivi tout son traitement contre la tuberculose, ma femme est retombée malade. » C'est quelque chose qu'on peut observer malgré le suivi.
Et bien, à nouveau, là, effectivement, selon les diagnostics, il peut y avoir une tuberculose multirésistante qu'on n'a pas diagnostiquée au début. En Europe, on diagnostique pour tout le monde, mais c'est vrai qu'en Afrique, ce n'est pas systématiquement disponible, la recherche de résistance. Et auquel cas, il peut y avoir effectivement une rechute.
Parce que ce qu'il faudrait faire, c'est prendre la bactérie, bien l'observer, ouais, pour voir si c'est une, entre guillemets, normale ou une super bactérie.
Alors, en France, on fait ça systématiquement. Toutes les tuberculoses, on cherche la résistance. Dans certains pays, en Afrique, ça se fait aussi, mais pas partout. Et selon aussi le site, hein, si c'est en capitale ou de manière un peu plus éloignée, ça peut être non fait.
Alors, on va partir en Guinée à Conakry, où on retrouve maintenant Ibrahim. Ibrahim, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, Ibrahim, vous appelez au sujet d'un de vos amis, le jeune homme a 25 ans. Il a contracté une tuberculose particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui lui est arrivé, s'il vous plaît ?
Oui, voilà, et par rapport au cas de mon ami.
Oui.
Et d'abord, il y a un bouton qui était apparu sur son corps.
Oui.
Il avait trop souffert. Et maintenant, on commençait à traiter avec la pharmacopée. Et maintenant, après le traitement de ce bouton, l'amaigrissement qu'il avait subi,
oui,
il faisait qu'il persistait. Donc, on se disait toujours qu'il y a d'autres problèmes. Donc, il a continué à suivre les traitements traditionnels. Et maintenant, quand on a vu que vraiment le traitement qu'on est en train de suivre n'aboutit à rien,
oui,
on a commencé maintenant à s'approcher des hôpitaux pour faire des diagnostics. Et c'est au cours de ces diagnostics-là qu'on a découvert que c'est de la tuberculose osseuse.
Tuberculose osseuse, ça veut dire qu'on lui a fait un prélèvement, une prise de sang pour faire ce diagnostic? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, tout à fait.
Ça veut dire qu'il avait des symptômes depuis combien de temps? Parce qu'on a bien compris, vous êtes allé à plusieurs reprises consulter un tradipraticien avec cet ami. On va dire, il a perdu combien de temps, entre guillemets?
Oh, ça peut aller de 6 à 8 mois.
De 6 à 8 mois. Tuberculose osseuse, est-ce qu'il a des symptômes, justement? Est-ce qu'il a des douleurs localisées sur les os?
Oh, il sentait quelques douleurs, mais la douleur n'était pas comme ça. Ce qui m'a de plus marqué,
oui,
c'était son état d'amaigrissement.
L'amaigrissement.
Il amaigrissait de plus,
d'accord,
en plus. Oui.
D'accord. Voilà. Est-ce que quand on lui a diagnostiqué sa tuberculose osseuse, on a recherché d'autres infections, par exemple le VIH?
Non.
Non. Ça n'a pas été fait à l'hôpital?
Nous, si l'hôpital a fait un diagnostic par rapport au VIH, mais...
C'était négatif?
Le résultat qui a été donné ne parlait pas de VIH.
D'accord, donc il était négatif au VIH, avec une tuberculose osseuse. Alors, on écoute vos questions, Ibrahim, je vous en prie, allez-y.
Voilà, et la question que je pose, c'est de savoir quels sont les symptômes de la tuberculose osseuse. Et la question suivante, quels peuvent être les modes de transmission de la tuberculose osseuse?
Question très intéressante. Quand on a une tuberculose, docteur Marie Jaspard, qui atteint les os comme pour l'ami d'Ibrahim, est-ce qu'on connaît vraiment le mode de transmission?
Alors, c'est un peu difficile à dire. C'est-à-dire que la tuberculose peut être dans les os uniquement ou dans les os et dans les poumons. Si la tuberculose est que dans les os, on ne peut pas transmettre. Hein. C'est pas possible. On a aucune mode de communication entre les os et l'extérieur. En revanche, s'il a de la tuberculose dans les poumons en même temps, de manière concomitante, là, il peut transmettre. Il faut vraiment se dire que la tuberculose, c'est une bactérie qui se met dans les bronches, qui se multiplie dans les bronches, et quand on tousse, ça sort. C'est un peu comme toutes ces maladies respiratoires, la grippe, le Covid, tout ça. Et donc, s'il n'y a pas d'atteinte pulmonaire, il n'y a pas de transmission possible. Là, dans le cas précis de l'ami d'Ibrahim, je ne sais pas s'il a une atteinte pulmonaire. Mais c'est vraiment, il faut qu'il y ait une atteinte pulmonaire, il faut qu'il y ait une toux, des crachats. Et là,
mais ça veut dire que lui-même, il l'a, entre guillemets, attrapé parce que quelqu'un lui avait transmis à un moment donné dans l'air ou un postillon qui était contaminé.
Oui, alors il faut être quand même, pour se transmettre par voie respiratoire, il faut être dans une pièce fermée pendant une bonne demi-heure,
ce
voire une heure.
Ce qu'on dit souvent, c'est un environnement familial. Hein.
Exactement. Mmh. Mais c'est vrai que ça ne se transmet pas en... C'est moins contagieux que la grippe qui va très très vite.
Pas en croisant quelqu'un dans la rue.
Exactement. Il faut être dans un environnement fermé et pendant une longue durée conséquente.
Donc la même chose quand on dit quelle est la cause, c'est la même bactérie mais qui va se localiser, se loger à un endroit différent.
En fait, quand l'atteinte pulmonaire est importante, du coup, il y a un contact entre les bronches évidemment et les vaisseaux. La bactérie passe de la bronche au vaisseau, circule dans le corps et peut se mettre absolument n'importe où. Et donc, notamment dans les os. En général, dans le rachis ou même ailleurs, n'importe où. Et là, il y a une tuberculose osseuse. Si l'atteinte pulmonaire se guérit, il n'y a plus de transmission. Et il ne reste que l'atteinte osseuse. Si l'atteinte pulmonaire persiste, là, il y a une transmission respiratoire possible.
Quand on va avoir très, très mal aux os, voire carrément plus pouvoir marcher, ça veut dire que la tuberculose osseuse, elle va être très, très avancée.
Oui, ça peut dire ça. Alors, effectivement, je sais que je me répète, mais l'ami d'Ibrahim parle très bien de cette perte de poids. C'est vraiment extrêmement classique.
Quand on a 25 ans et qu'on perd 10 kilos ou 5 kilos, c'est pas normal, on consulte direct.
Exactement.
Ouais. C'est très important de le dire. On a Adiat aussi, là, qui pose une question. Symptômes de la tuberculose intestinale.
Ben alors, à nouveau, on reste avec les symptômes généraux. Sur le plan digestif, alors déjà, c'est pas très fréquent, cette tuberculose intestinale, il faut quand même le rappeler.
Oui, attention, hein, celles qui nous écoutent, c'est pas parce qu'on a une douleur au ventre
exactement.
Qu'on soupçonne ça. Exactement. Attention, il y a beaucoup de choses avant. Hein.
Oui, finalement, la tuberculose intestinale, c'est quand même rarissime. Je sais même pas si on l'a déjà vu de manière centrale, c'est-à-dire quand les patients peuvent avoir une tuberculose d'ailleurs avec une petite infiltration intestinale, mais c'est vraiment pas un des tropismes, enfin une des zones prioritaires pour le bacille de corps.
En tout cas, on remercie Ibrahim pour son appel de tout à l'heure. Et à Bangui, et maintenant en République centrafricaine, on rejoint Anissé. Anissé, bonjour.
Bonjour.
Alors vous aussi, vous avez été diagnostiqué pour une tuberculose, ça remonte à déjà un petit peu loin dans le temps. Vous avez 43 ans. Vous avez été guéri au bout de combien de temps, Anissé?
Au bout de 6 mois.
Au bout de 6 mois, ça remonte à quand cette infection à la tuberculose?
C'était en 2010.
En 2010. Depuis, ça va plutôt bien au niveau de la santé?
Non, il y a des perturbations. Il y a quelquefois des perturbations.
Est-ce que vous pouvez nous décrire ces perturbations, s'il vous plaît?
Oui, il m'arrive des fois de cracher du sang. J'ai aussi des hémorroïdes.
Voilà. Est-ce que vous avez perdu du poids? Est-ce que vous transpirez la nuit quand vous êtes dans votre lit?
Non.
Non. Au niveau du crachat de sang, je vais poser une question très concrète. Hein, je m'excuse pour les gens que ça dégoûte, mais j'y vais carrément. Est-ce que c'est un petit filet de sang vraiment très, très limité ou est-ce que c'est quelque chose d'assez massif?
Non, c'est... De ce dernier temps-là, c'est en grande quantité, quoi.
Ah, en grande quantité. J'imagine que du coup, vous étiez inquiet et vous avez consulté pour ça. Parce que quand même, je veux dire, quand on crache du sang, on ne reste pas à la maison tranquille, on va vite à l'hôpital ou au centre de santé.
Et oui, je me suis rendu à l'hôpital communautaire.
Ouais.
on m'avait prescrit des examens à faire. J'avais fait des examens au niveau du laboratoire, l'Institut Pasteur, parce que c'est le laboratoire de référence ici dans notre pays.
Oui.
J'avais fait des examens, mais ça avait négatif.
Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle si vous êtes négatif à la tuberculose. Maintenant, savoir, vous avez quand même besoin d'explications. Quand on crache du sang, on a envie de savoir pourquoi. Est-ce que vous êtes retourné voir un médecin après ce diagnostic négatif à la tuberculose pour essayer de comprendre pourquoi vous avez ce symptôme très inquiétant?
Et oui.
Et ils vous ont donné des réponses? Qu'est-ce qu'il a dit?
Il m'a dit que bon, c'est parce que c'est l'incompatibilité, parce que la nourriture que j'avais mangée, comme j'avais mangé de l'oignon cru.
Ah.
Et c'est après avoir mangé cet oignon que je commence à tâcher du sang.
Ah ouais, ben, heureusement que toutes les personnes qui ne mangent pas une bonne salade avec des oignons se mettent à cracher du sang. Peut-être qu'il faudrait faire des examens complémentaires. Je me tourne vers la spécialiste, docteur Marie Jaspard. C'est vrai que j'imagine, quand on a une tuberculose et qu'on voit revenir ce type de symptômes, il y a de quoi s'inquiéter.
Oui, c'est extrêmement... je pense que c'est traumatisant pour les patients qui ont eu peur de leur présente tuberculose. La quantité est importante. Vous avez bien posé la question. Hein, vous devriez faire médecine éventuellement.
Non, c'est trop tard.
En tout cas, effectivement, la quantité est extrêmement importante. Après, effectivement, comme pour un autre auditeur avant, si la bactérie a énormément abîmé les poumons, il peut rester des séquelles, ce qu'on appelle des cavernes. Hein, c'est vraiment un trou, littéralement, un trou tout rond dans le poumon. Et là, s'il y a un petit vaisseau qui est à côté du trou et qui saignote, ça peut faire ce genre de symptômes. C'est quand même embêtant. Ça vaut quand même le coup de consulter un pneumologue, si c'est possible, à Bangui, de faire un examen pulmonaire pour regarder un petit peu sur le plan morphologique, donc une radio ou un scanner. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas très rassurant. Normalement, il faut essayer d'emboliser ce petit vaisseau qui saigne, parce que ça risque de ressaigner régulièrement. Donc une prise en charge un peu spécifique serait intéressante dans ce cas précis, je pense.
Donc si c'est possible de faire une radio, je ne sais pas quels sont vos moyens, Anissé. Vous imaginez une radio des poumons sur la place de Bangui, est-ce que c'est possible?
Et c'est possible, on avait fait le dimanche,
ouais.
Parce que je suis parti au niveau de l'hôpital communautaire, on avait fait la radio.
Mais la faire lire par un spécialiste pneumologue, justement, cette radio?
Et oui, on avait dit qu'il n'y a rien dessus.
Il n'y a rien dessus, donc de ce côté-là, c'était plutôt rassurant. Bah écoutez, un grand merci, un bon courage pour la suite pour vous, Anissé. Et on va maintenant prendre la direction du Sénégal.
RFI à Dakar. 92 FM.
Dakar, où l'on retrouve le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. C'est vous, docteur Fodé Danfaka, bonjour.
Bonjour Maïm, bonjour.
Alors, docteur Danfaka, chez vous au Sénégal, est-ce que certaines régions du pays sont davantage que d'autres affectées, touchées, concernées par la tuberculose?
Effectivement, au Sénégal, si nous faisons une stratification des cas de tuberculose, on remarque que il y a 4 régions qui portent la charge de morbidité la plus importante, avec des incidences qui sont supérieures à 100 cas pour 100 000 personnes. Donc ces régions sont les régions de Dakar qui est en tête avec 40% de la morbidité. Ensuite vient la région de Thiès, et puis la région de Diourbel et la région de Ziguinchor. Mais sur ces régions, il y a 34 districts aussi à forte charge. Donc ces 34 districts couvrent à peu près 83% des cas de tuberculose qui sont notifiés au niveau du Sénégal.
Est-ce que vous avez des éléments concrets pour expliquer cette concentration des cas? Ben, Dakar, on peut comprendre, hein, compte tenu de la démographie et de la densité de la population, mais pour les autres zones, par exemple Ziguinchor au sud, comment vous l'expliquez?
Effectivement, si vous voyez les facteurs, il y a surtout ces facteurs environnementaux avec la mobilité des personnes, la démographie. Parce que quand on parle d'incidence de 100 cas pour 100 000 habitants, effectivement, vous voyez que les régions qui sortent en tête sont les régions les plus peuplées du Sénégal.
Ouais.
Donc voilà, c'est surtout les conditions d'habitation, la promiscuité, mais surtout l'exode. Parce que c'est des régions où les gens se déplacent pour aller chercher du travail, donc qui habitent dans des conditions de promiscuité très importantes. Donc ces facteurs s'expliquent du fait que vous allez trouver une concentration de ces cas au niveau de ces régions. Ziguinchor, c'est vrai que c'est une région excentrée, mais il y a aussi une démographie importante, mais surtout les conditions de vie au niveau de ces régions. Mmh. En prenant en compte aussi les pays frontaliers.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de mobilité, on va vers la Gambie, on va vers la Guinée, donc on bouge beaucoup dans ces régions.
Effectivement, donc c'est cette mobilité aussi qui explique cette forte incidence au niveau de la région de Jigenshor. Donc voilà. Si on dit Djourbel...
Oui, mais si on regarde la photographie là, des cas, maintenant si on regarde la tendance, ces cas de tuberculose, il y en a plus ou moins qu'avant, docteur Donfaka?
Effectivement, avec les stratégies qui sont mises en œuvre pour renforcer le dépistage, chaque année, nous voyons que ces cas augmentent. Par exemple, si on prend l'année 2024, nous avons notifié 16 656 cas sur 20 000 cas attendus. Donc, il faut savoir que chaque année, on se fixe un nombre de cas qu'on doit dépister. Maintenant, on a 16 656 sur 20 000 cas attendus. Donc, ce qui nous donne une couverture de 81%. Donc, il y a 19% de cas manquants chez les adultes.
Chez les adultes. Si on s'arrête maintenant sur le dépistage des enfants, est-ce qu'il y a des difficultés particulières?
Effectivement, de la même manière que chez les adultes, chez les enfants aussi, il y a un gap de 1834 enfants qu'on devrait dépister en 2024. Donc cela s'explique par le fait que, d'habitude, le mode de dépistage, chez les enfants ne savent pas cracher. Donc on est obligé de faire des tubages gastriques, mais aussi, parfois, en fonction de la maman qui amène l'enfant tôt à l'hôpital ou pas, donc où il y a des cas de sous-notification chez ses enfants. Maintenant, ce qui a amené le pays à mettre en place une stratégie qui permet de faire le dépistage au niveau des selles, ce qu'on appelle les tests experts dans les selles. Donc cela nous a permis quand même de renforcer le dépistage chez les enfants. Et depuis que nous l'avons mis en œuvre, depuis l'année passée, on voit que cet indicateur est en train de s'améliorer.
Alors, si on parle maintenant de la lutte contre la tuberculose, dans quel domaine, à vos yeux, il faut encore faire un effort supplémentaire et concentrer les moyens pour une meilleure prévention?
Effectivement, c'est d'abord de renforcer le dépistage. Si on dit renforcer le dépistage, il faudra décentraliser, il faudra former le personnel sur le dépistage et la prévention, mais surtout faire une approche multisectorielle. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la tuberculose, la prise en charge ne se limite pas seulement au niveau des structures de santé. Donc, il faudra impliquer le niveau communautaire, la société civile, pour renforcer la communication, pour le recours précoce aux soins. Maintenant,
ça veut dire va dans les maisons, on va dans les concessions, on alerte la famille quand il y a un cas pour que tout le monde aille se faire dépister et qu'on repère bien les zones à problème.
Effectivement. Donc ça va nous permettre vraiment de rapprocher le diagnostic au niveau de la communauté. Donc le Sénégal quand même a un niveau communautaire très engagé, avec plan qui nous accompagne sur ce volet. Maintenant, on est en train de voir comment renforcer le diagnostic au niveau communautaire, mais surtout investir aussi sur le transport des échantillons, parce qu'on sait que le diagnostic se fait au niveau des centres de santé, postes de santé. Maintenant, même au niveau communautaire, on peut mettre en place un système de transfert des échantillons qui fait que le prélèvement peut se faire et les échantillons remonter au niveau des structures de santé.
Un dernier mot, docteur Donfaka, pour conclure.
Pour conclure, juste dire que nous allons célébrer la Journée mondiale de la tuberculose. Et le thème de cette année, c'est que oui, nous pouvons éliminer la tuberculose, s'investir, s'engager et agir. Donc, que des verbes d'action pour dire que pour éliminer la tuberculose, il faut une approche multisectorielle. L'engagement aussi bien des politiques, l'engagement de la société civile, mais aussi l'engagement des communautés pour qu'on puisse éliminer la tuberculose au niveau du Sénégal.
Tous ensemble, on a bien compris. Grand merci à vous, docteur Fodé Donfaka, pour votre éclairage. On vous retrouve en studio, docteur Marie Jaspard. On a entendu le chargé de la lutte, programme de lutte pour le Sénégal, dire faut, on a bien compris, désenclaver cette approche de la santé, plus de moyens, la mobilisation de tous. Question sur l'avenir de la riposte, forcément on y pense, avec le choc provoqué par les décisions prises par les autorités américaines, onde de choc après le bouleversement des moyens alloués à la lutte. 250 millions de dollars qui vont manquer suite à la suspension du financement annuel américain, une coupe budgétaire énorme du principal donateur. On peut bien imaginer que ça va avoir des conséquences. Alors, à part l'abattement, il y a la réorganisation.
Oui, alors personnellement, je suis encore un peu dans l'abattement. Pour être tout à fait honnête. Je travaille des années sur le continent africain. Je ne sais pas comment est-ce que tout ça va se faire. Je ne vois pas les autres pays mettre un investissement financier aussi.
Non, les autres aussi étaient en train de réduire. Donc,
pour l'instant, je suis encore dans l'abattement. Je suis désolée, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas comment.
Ah, mais je ne suis pas là pour vous donner des solutions. En tout cas, c'est le moment de réfléchir à des pistes.
Il faut réfléchir, il faut trouver des solutions. Nous, les scientifiques, on avance sur des diagnostics plus faciles, des traitements plus courts. Enfin, il faut qu'on avance quelque chose là-dedans pour qu'on puisse avoir la facilité plus importante et donc avoir moins besoin d'argent. Enfin, il va falloir qu'on trouve une solution. Malheureusement, j'arrive pas là pour l'instant. Je suis dans la sidération, tout à fait honnêtement.
On vous réinvitera dans un an. J'espère qu'on aura passé ce cap et que les choses iront mieux. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué de faire des promesses en l'air. Grand merci pour ces explications, docteur Marie Jaspard. On va parler dans quelques instants de l'accompagnement des aidants, personnes concernées par les maladies psychiatriques, des troubles du neurodéveloppement, juste après Éric Perdurant avec ce titre « Moine Paris ».
Sous Paris, vivons l'amour plus fort. Moins Paris. Et sous Paris, changez vieille habitude. Moins Paris. Apprenez mes qui j'en nous différents. Moins Paris. Et sous Paris, vivons l'amour sincère. Moins Paris. Et moins Paris, effacez le passé. Moins Paris. Et sous Paris. Mettez les comptes à zéro. Et sous Paris, redémarrer même les motels à prendre l'eau. Et sous Paris, bloquer moyen dans les conditionnels. Et sous Paris, pour nous faire le péché originel. Et sous Paris, moi viens trancher au compte à Boca. Moins Paris. Et sous Paris, pour nous faire frapper Boulala. Mettez les comptes à zéro. Et sous Paris, redémarrer même les motels à prendre l'eau. Moins Paris. Moins Paris. Petit pas, la vie qu'a déroulé devant nous. Et tous les jours, nous qu'à songer. Si c'est pas pour demain, c'est pour qui joue. Et qui monte. Qui m'ont choisi pour la vie, et c'est moi qui choisi pour la vie. Qui m'ont choisi pour la vie, oh qui m'ont choisi pour la vie. Et qui m'ont choisi pour la vie, et c'est moi qui choisi. Ah, et sous Paris, il commençait, mettez les comptes à zéro. Et sous Paris, redémarrer même les mots.
Programme initié avec l'équipe de l'hôpital Le Vinatier de Lyon, structure dédiée à la psychiatrie. Au cœur de ce dispositif, renforcer les compétences, favoriser un mieux-être pour les aidants des patients concernés par des troubles psychiques sévères. Psychoéducation, donc, on en parle, qui passe à l'ère numérique. Expérience que ça puisse donc bénéficier au plus grand nombre avec ce programme qui s'appelle Léo 2.0. On en parle avec vous. Docteur Romain Rey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre responsable du centre expert schizophrénie de la Fondation Fondamentale à l'hôpital Le Vinatier à Bron, également responsable du centre lyonnais des aidants en psychiatrie. Est-ce qu'on peut dire que ce Léo 2.0, c'est un petit peu le petit frère de votre programme Léo ? Et puis d'abord, c'est quoi la psychoéducation des aidants ?
Alors, en psychiatrie, on a eu une histoire vraiment pas terrible pendant très longtemps dans les relations qu'on a pu entretenir avec les aidants, l'entourage des personnes qui vivent avec un trouble psychique, toutes les personnes qui les soutiennent au long cours. Parfois, on les a tenus un peu à l'écart, parfois on les a aussi culpabilisés, alors même que ce qu'on sait désormais, c'est que les aidants sont des personnes extrêmement importantes pour les personnes qui vivent avec un trouble psychique, et que d'ailleurs, ce sont des facteurs très importants pour qui contribuent à leur rétablissement. Et donc, la psychoéducation, c'est un type d'intervention qui existe dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale, et qui vise à soutenir les aidants en les formant, en les informant, en leur donnant des techniques pour qu'ils soient plus à même justement d'accompagner bien leurs proches et puis de se préserver. Et donc, cette psychoéducation qui est recommandée par les guidelines internationales sur les soins les plus optimaux, elle est encore trop peu présente en France. Et nous, à Lyon, on crée des programmes de psychoéducation. Et il y a quelques années, on a créé le programme de psychoéducation Léo, qui est la version non numérique du programme qu'on vient de digitaliser.
Ça veut dire que vous allez améliorer les compétences. Ça veut dire quoi, par exemple, ces conseils? Quels sont-ils?
Alors, quand on est une famille et qu'on a un proche qui déclare un trouble psychique ou qui vit avec un trouble psychique, on a plein de questions et plein de besoins et d'attentes. Et parmi ces besoins et ces attentes, il y a mieux comprendre ce qui lui arrive. Donc ça, c'est des informations, des connaissances, à quoi est due la maladie, quels en sont les symptômes, comment organiser le système de soins. Et puis, il y a aussi des compétences. Alors, les compétences, c'est des stratégies, des outils, des techniques à utiliser au quotidien pour bien accompagner son proche. Donc, ça peut être des techniques de communication, par exemple, faire en sorte que d'entretenir la motivation de son proche à prendre soin de lui, à respecter ses rendez-vous médicaux, à s'engager dans des processus thérapeutiques qui parfois sont lourds, mais qui permettent justement d'avancer vers les projets. Donc ça, c'est des techniques de communication spécifiques qui permettent de préserver la relation qu'on a vis-à-vis de son proche tout en entretenant sa motivation à lui à aller mieux.
Est-ce que ça veut dire que cette communication, elle va être propre à la pathologie? On ne va pas s'adresser de la même personne à un enfant qui développe par exemple des symptômes du trouble du spectre de l'autisme par rapport à une personne schizophrène, bipolaire, borderline?
Alors, il y a des techniques de communication qui sont propres à certains troubles, mais il y a aussi des techniques de communication qui sont générales, généralistes. Ouais. Et d'ailleurs, dans le programme dont on parle, là, qui est Léo, ce sont des techniques de communication qui sont généralistes. Ça nous permet d'accueillir des aidants d'horizons divers, hein, qui accompagnent des proches avec tout type de troubles. Et c'est même des techniques de communication qui sont validées, y compris en direction de personnes qui ne sont pas concernées par des troubles psychiques. C'est des techniques de communication qu'on peut employer dans toutes les spécialités médicales. Et d'ailleurs, nos confrères d'autres disciplines les utilisent justement pour favoriser l'engagement des personnes vers des changements de vie importants pour eux qui vont leur permettre d'aller mieux.
On peut imaginer aussi, ça évite d'aller sur le numérique, voir un peu n'importe quoi en termes de santé mentale, voir les choses les plus compliquées et qui ne correspondent pas vraiment à la situation de la personne qu'on entoure. Ça veut dire psychoéducation, pour autant, j'imagine qu'il faut quand même rester dans le vivant et échanger avec les familles, les aidants, pour les conseiller aussi, pour savoir comment faire avec ce patient qui fait partie de la famille.
Alors c'est tout le défi de transformer un programme de psychoéducation qui normalement se fait en présentiel, ça prend la forme d'une formation, on a des familles face à soi, et de le transformer sous un versant numérique. Là, c'est le programme Léo 2.0 qui est disponible depuis le 19 mars dernier.
Ouais.
Ça nécessite des techniques pédagogiques particulières, il faut préserver de l'interactivité, faire des exercices pour justement que ça soit pas un contenu livresque que les personnes ne s'approprieront pas et pourront pas mettre en œuvre au quotidien. Et bien entendu, il y a toujours l'objectif ensuite de motiver les personnes qui participent à ce type de programme en numérique à poursuivre leur accompagnement, et cette fois-ci en présentiel, soit en bénéficiant de formations qui sont proposées par les hôpitaux, soit par les associations de famille, et je pense notamment à l'UNAFAM, qui est la principale association de famille dans le champ de la santé mentale en France, et qui propose une offre de ressources, de formation dans chaque département de très grande qualité.
Merci docteur Romain Rey, on va mettre bien sûr les liens vers justement ces associations et vers ce nouveau programme Léo 2.0 sur la page de l'émission, notre émission qui est terminée. Merci à toute l'équipe. Demain, nous allons parler des appendicites et des péritonites, savoir distinguer ces deux infections, inflammations, identifier les symptômes et dans quel cas une intervention chirurgicale est-elle nécessaire. On se donne rendez-vous à 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute et surtout portez-vous bien.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou.